Vous écoutez France Culture.
Radio France améliore ses services et renouvelle son offre podcast. Attention, renouvelez vos abonnements au podcast des émissions. Pour cela, rendez-vous sur notre site à partir du mercredi 4 mars.
Sur les docks. La délinquance des mineurs, c'est le thème de Sur les docks, l'heure du documentaire sur France Culture, et ce, jusqu'à jeudi. Parents démunis au point de paraître les enfants de leurs enfants. Professionnels débordés. Les uns et les autres appellent à un partage des responsabilités. Si on croit encore qu'un enfant en difficulté, ce n'est pas un problème dont il faut se débarrasser, mais une construction à reprendre sans cesse, à charpenter, à étayer, il y faut beaucoup d'ouvriers. La famille, si c'est encore possible, le juge des enfants avec sa culture de l'audience, les éducateurs avec leur présence régulière. L'idée qui est expérimentée à Clairelogis, à Paris, longuement visitée dans ce documentaire par Catherine Escrive et Jean-Philippe Navarre, c'est même celle d'une construction à deux toits. Dans le vocabulaire des professionnels de la profession, on dit « accueil séquentiel ». L'enfant alterne, quelques jours à Clairelogis, quelques jours chez ses parents. Deux toits pour lui, avec deux climats différents, dont il ne faut pas qu'ils entrent en contradiction au risque d'enfermer l'enfant dans un conflit de loyauté.
Deux toits pour moi, enfant placé en accueil séquentiel. Un documentaire de Catherine Escrive et Jean-Philippe Navarre.
Foyer d'enfants Clairelogis, 18e arrondissement.
Rencontre avec Sana et sa grande sœur Kéra.
Bonjour, je m'appelle Sana, j'ai 11 ans et j'ai un frère qui s'appelle Mehdi et une sœur qui s'appelle Kéra.
Alors, Sana, est-ce que tu te souviens à quel âge tu es arrivée ici à Clairelogis ?
J'avais à peu près 8 ans, je crois. 8 ans.
Et est-ce que tu te souviens de la première fois où tu as visité ce foyer ?
Bah, j'ai trouvé que c'était beau, que c'était assez grand. Et je me suis dit, je crois que je vais me sentir à l'aise finalement.
Quand tu vivais ici, tu rentrais le week-end chez toi, dans ta famille ? Tu allais chez ta maman, c'est ça ?
Oui, chez ma mère et chez ma marraine.
Et alors, ça te faisait quoi comme impression d'avoir deux toits, deux maisons ?
C'était bizarre au début, mais après je me suis habituée. Au début, je comprenais pas trop, mais après, on a pu m'expliquer, et puis après, j'ai mieux compris. J'ai compris que ça m'a permis d'avoir une vie en toute sécurité, avec une bonne scolarité, des gens autour de moi, et puis ça m'a appris des choses de vivre en communauté.
Il mange avec des camarades, il arrive. Après, c'est le dessert.
Oui.
Alors,
tu nous fais la visite guidée ?
Oui. Là, c'est l'escalier pour accéder au premier étage, aux chambres. Au salle de bain, il y a une toilette et la chambre de garde.
Stéphane, c'est quoi la chambre de garde ?
Bah, c'est là. Avant, c'était les éducateurs qui dormaient ici, puisque je faisais un peu des veilleurs. Mais maintenant, il y a des veilleurs qui circulent dans les groupes. Plus un éducateur, normalement, qui reste. Chambre alors petite, un peu abîmée, un petit lavabo, miroir, lampe, armoire pour deux personnes, mais vu que je suis tout seul dans ma chambre, ça, un bureau pour travailler, une étagère, tiroir et voilà, mes posters.
Tu es arrivé à quel âge à Clairelogis ?
Depuis j'ai CN2, donc 11 ans.
Et aujourd'hui tu as 13 ans ?
Oui.
Tu venais de chez toi ou tu venais d'un autre foyer ?
D'un autre foyer qui se trouve à Villepinte.
Et pourquoi tu as changé pour venir à Clairelogis ?
C'est parce que c'était plutôt un grand foyer, donc vu que c'était dans le 95, il y avait un peu entre guillemets des racailles. Et vu que j'étais pas vraiment comme ça, donc on m'a décidé de me mettre dans un foyer un peu plus calme.
Tu m'as dit qu'au tout départ, quand tu étais petit, je crois que tu avais 7 ans, c'est ça ? Ça a été assez brutal la manière dont tu es arrivé au foyer.
Bah oui, j'étais à l'école, c'était un mercredi, je faisais genre les ateliers bleus quoi. Après, la police est venue me chercher, j'étais au foyer, j'ai pas vu ma mère pendant à peu près 1-2 mois. Et après, je l'ai revue, je suis vraiment ce qui se passait, quoi, et que j'étais placée en foyer pour et certaines causes qu'a ma mère.
Et ça veut dire qu'au début, tu étais placée tout le temps, même le week-end ?
Au début, oui, c'était même le week-end. Après, ma mère pouvait venir me chercher, m'emporter, pour faire des petites sorties dans le coin et me ramener le soir. Après, ça a été les week-ends que je passais chez moi.
Tu disais qu'elle avait du mal à se déplacer ?
Ouais, cardiaque, diabétique, enfin, tout ce qu'il ne faut pas avoir. Elle a aussi un problème à la jambe, donc elle ne peut pas vraiment beaucoup se lever.
Et ton papa, tu l'as connu ou...
Non, j'ai vu juste 2-3 fois quand j'étais petit, c'est tout. Mm-hmm. Je pense pas qu'il veut me voir, vu que c'est lui qui m'a laissé tomber, mais bon.
Et quand t'étais petit, que tu es né, c'est ta maman qui s'est occupée de toi, mais t'as pas eu une nourrice
Si, parce que ma mère travaillait dans des bars, elle faisait le ménage, quoi. Elle gagnait un peu d'argent, oui.
Alors, juste pour que tu me dises, Stéphane, tu passes combien de temps au foyer et combien de temps chez toi ?
Je passe le mardi soir, mercredi, jeudi, vendredi soir, je pars chez moi jusqu'à mardi soir.
Yves Masson, vous êtes le directeur de Claire Logis. Et à Claire Logis, on propose de l'accueil séquentiel. Qu'est-ce que c'est l'accueil séquentiel ?
Alors, l'accueil séquentiel, ce sont des séquences que font les enfants, à la fois dans l'internat et dans leur famille. Pour nous, c'est un moyen d'adapter la prise en charge à chaque situation familiale. C'est un moyen de faire en sorte que l'enfant qui est accueilli ici ne rentre pas dans une case, mais on va formater la case à sa problématique. En fait. C'est une décision en fait tripartite entre la famille, l'organisme de placement, c'est-à-dire soit le juge pour enfants, soit l'aide sociale à l'enfance, et l'établissement. Et c'est élaboré comme ça tous les trois.
Et c'est une pratique récente dans les foyers pour enfants ?
Je pense que la loi de 2002 a permis effectivement aux internats de se libérer un peu de leur fonctionnement habituel. La loi de 2007 de la protection de l'enfance aussi. Et donc de plus en plus, maintenant, on voit les établissements pour enfants de l'aide sociale à l'enfance élaborer des prises en charge, je dirais, plus souples que ce qui était autrefois, où l'enfant arrivait le dimanche soir et repartait le samedi midi, même quand il repartait, parce que des fois, il passait toute sa vie dans l'internat.
Je m'appelle Kéra, j'ai 26 ans, j'ai 2 enfants, je suis mariée et je suis la sœur de Sana.
Qu'est-ce qui a fait que Sana a dû être placée en accueil séquentiel ?
En fait, j'ai une maman qui est malade et donc pour la sécurité de Sana, moi j'étais plus dans le domicile, il n'y avait que ma mère et donc mon petit frère. C'était mieux pour elle en fait qu'elle se retrouve dans un endroit où qu'on puisse s'occuper entièrement, enfin à 100% pour elle, l'emmener à l'école, etc. Parce qu'on se disait qu'à 8 ans, on ne pouvait pas aller à l'école tout seul, après il faut faire les devoirs, etc. Donc chose que ma mère ne pouvait pas faire à cette époque. Je me suis dit que c'était une bonne solution en attendant que ma mère elle guérisse. Enfin, ma mère, elle était plus d'accord pour tout ça. Bon, bien sûr, elle avait des inquiétudes, comme toutes les mamans. Mais c'est vrai qu'elle a tout de suite trouvé que c'était une bonne idée. Mais bon, moi, j'avais un peu plus peur par rapport à que, voilà, c'était un foyer, c'était la DAS. Et qu'on se dit souvent, bon, ben, on ne pourra jamais la récupérer. Elle sera dans les foyers toute sa vie. Moi, ce n'est pas ce que je veux pour ma sœur. Et donc, après, quand j'ai parlé avec Madame Zarcousin, c'est elle qui m'a fait comprendre qu'il n'y avait pas de problème, que la garde, elle était toujours à ma mère, même si ça n'a été au foyer. Il n'y avait pas de soucis, c'était nous qui avons la garde et du jour au lendemain, si on voulait la sortir, on pouvait la sortir.
Alors Viviane Zarcousin, quelles ont été les particularités de l'accueil de Sana ?
Comme la maman a vu que si jamais sa santé ne lui permettait pas de s'occuper de Sana, il valait mieux l'accueil de Sana. C'est-à-dire que Sana irait à l'école à partir de la maison d'enfants Claire Logis, donc Sana viendrait chez nous les lundis et mardis, jeudi et vendredi, et les mardis soirs et les mercredis, Sana retournerait voir sa maman. Comme ça, si jamais la maman était hospitalisée, Sana pouvait rester les mardis et les mercredis à la maison d'enfants. Et du coup, ça ne perturbait pas sa scolarité. Et je me souviens, ça avait été une décision très douloureuse pour la maman de Sana. Mais en fait, dans l'intérêt de sa fille, elle avait fait ce choix.
Oui, mais en fait, je suis allée chez une psychologue parce que j'avais des problèmes envers ma mère, parce que je m'inquiétais trop pour elle. Donc elle m'a appris à ne pas m'inquiéter, à m'occuper de ma vie et à mieux appréhender le fait qu'elle soit malade. Voilà.
Centre médico-psychologique du Moulin Vert. Rendez-vous avec le docteur Frodo, pédopsychiatre.
Lorsque un enfant est dans une famille où tout va mal, l'enfant ressent fortement que sur lui portent des charges extrêmement importantes, au fond. Il a à s'occuper de lui-même, en quelque sorte. Et un enfant peut être tout à fait soulagé d'arriver dans un cadre où il y a d'autres gens qui vont prendre des décisions pour lui, qui vont prendre la décision des moments où il faut se nourrir, des moments où il faut aller à l'école, du fait qu'il faut faire ses devoirs, etc. Au bout d'un certain temps, ils vont, oui, se fondre un petit peu dans le rythme de l'institution et reprendre leur propre développement, si vous voulez, leur propre rythme. C'est un soulagement pour l'enfant d'être dans un cadre qui est beaucoup plus sécurisant parce que les personnes qui sont là, les éducateurs, etc., tout le personnel d'encadrement, sont des gens qui ont appris à faire ça, qui savent faire ça, qui savent comment être avec les enfants, alors que les parents eux-mêmes sont quelquefois tellement démunis qu'ils sont comme les enfants des enfants, si vous voulez.
Je suis Christelle, l'éducatrice référente d'Amaury, donc que nous accompagnons depuis l'année dernière.
Il vient ici à quel rythme, Amaury ?
Alors, Amaury, il vient les mardis soirs, du mardi soir au mercredi. Voilà, donc il accueille sur le groupe des écureuils.
Non.
Il suffit d'avoir...
Les mardis, c'est les journées de réunion. Tous les mardis de 10 à 16h. Donc là, je vais vous montrer un peu la chambre d'Amaury. Donc là, nous entrons dans la chambre d'Amaury. Donc ici, c'est son lit. Il partage sa chambre avec un plus grand de 12 ans, Amine, et avec un autre enfant plus grand aussi, Junior. Voilà, donc il vient tous les mardis soirs dormir à Clairelogie. Il repart le mercredi voilà, dans sa famille.
Donc il a une nuit seulement au foyer.
C'est ça. Voilà.
Et est-ce qu'il arrive qu'il vienne plus ?
Non, parce que la situation en fait nécessite pas forcément qu'Amaury revienne à Clairelogie. Par contre, si les parents avaient besoin pour X raisons, ou que c'était un peu compliqué ou tendu à la maison, que les parents ont besoin d'un relais, sa place est gardée, donc il peut revenir à Clairelogie. Voilà, à la demande des parents. Si nous, on sent que la situation le demande.
Et même son pyjama sous l'oreiller.
Oui. Voilà, c'est le pyjama d'Amaury.
Ça veut dire que vous préparez son arrivée ?
Comme pour les autres enfants, la maîtresse de maison veille à ce que son lit soit fait, son pyjama soit propre.
Et pourquoi c'est vous qui allez le chercher à l'école et vous qui repassez chez lui et pas sa maman ce soir ?
À des moments, c'est nous qui y allons, à des moments, c'est les parents qui viennent le raccompagner ou bien inverse.
Et quel lien avez-vous avec Amaury ?
Pour les enfants comme pour nous, on n'est pas en confiance comme ça d'emblée avec quelqu'un qu'on ne connaît pas. On est éducateur, mais c'est quelque chose qui se travaille vraiment sur le long terme. Et pour un enfant, ça prend du temps. Enfin, comme pour nous, en fait, on ne va pas déballer sa vie comme ça à quelqu'un. Tout de suite, avoir confiance en lui, ce n'est pas possible dans une relation. Ça prend toujours un peu du temps. Moi, dans ce lien-là, je parlerais d'une relation éducative. Je dirais que pour Amaury, je suis un repère. S'il a des questionnements, des inquiétudes, il sait que c'est à nous qu'il peut s'adresser. On peut être aussi à des moments un porte-parole. Quand il y a des choses qu'il ne peut pas dire à sa famille, on peut l'aider un peu ou relayer ça. On veille à ce qu'il soit le mieux possible et que le placement, ça soit le moins possible pour lui, une séparation qui serait difficile. En tout cas, une écoute et une attention et un regard individualisé. Enfin, on ne va pas s'adresser à Amaury de la même façon qu'avec un autre enfant. On sait là où sont ses difficultés, c'est là-dessus qu'on va l'aider. Voilà. Bon, il sait aussi qu'on est beaucoup en lien avec son école. Et que si ça se passe pas bien à l'école, ça va pouvoir être relayé, qu'on va essayer de comprendre avec lui ce qui s'est mal passé à l'école, ou pour quelle raison il a réagi de telle ou telle façon avec un autre enfant.
Donc là, Amaury prendra son goûter à l'école, et ce soir, il va voir un match de foot avec les gens du foyer.
Voilà, c'est ça. Donc oui, par rapport à ce soir, en fait, c'est un événement un peu exceptionnel. On a On a réussi à avoir des places pour un match de foot Paris-Tunisie. Donc, ouais, donc Amaury est un grand fan de foot, donc il y a des enfants qui vont pouvoir en bénéficier. Donc on a 10 places et Amaury, je pense, va être ravi. Donc là, ma collègue va appeler le papa d'Amaury pour savoir ce qu'il décide en fait par rapport à cette sortie. Son papa l'a puni en fait pendant un certain temps de sortie parce qu'Amaury avait posé certains problèmes de comportement à l'école. Donc pour marquer le coup, son papa a décidé de le priver de sortie. Du coup, bon, on est un peu embêté et il va falloir qu'on demande aussi aux parents. On ne peut pas aller contre non plus les valeurs éducatives des parents. Donc on va demander avant de parler à Amaury de cette sortie, forcément, il va falloir qu'on aborde ça avec les parents, savoir ce qu'ils décident par rapport à cette sortie. Voilà. Parce qu'on ne peut pas faire ça d'emblée. Enfin, devant Amaury, ça serait vraiment mettre les parents en grande, grande difficulté. Donc, c'est pas souhaitable. Voilà.
On va où, là, Christelle?
Donc là, nous allons à l'école d'Amaury. Amaury est scolarisé dans le 11e.
C'est vous qui dormez là, ce soir?
Non, c'est pas moi qui dors là ce soir, c'est un autre éducateur. Voilà, un autre éducateur qu'Amaury connaît, parce que nous sommes une équipe en fait de 5 éducateurs sur le groupe, des éducateurs spécialisés, moniteurs éducateurs et éducateurs de jeunes enfants. Et donc chaque mardi, il y a un éducateur du groupe des écureuils qui fait la nuit.
D'accord.
Bon, voilà, qu'Amaury connaît.
Cabinet du juge Hervé Hamon, président du tribunal pour enfants de Paris et juge pour enfants.
L'ambiguïté, mais aussi la richesse du juge d'enfants, c'est qu'il intervient au niveau de la garde, y compris dans un placement séquentiel, mais les parents conservent tous les attributs de l'autorité parentale qui ne sont pas incompatibles avec la mesure. On doit travailler avec les parents sur ce qu'ils peuvent donner et apporter dans le cadre de l'exercice de l'autorité parentale, à condition que ce soit conforme à l'intérêt de l'enfant. Donc là, ça demande aussi énormément d'attention et de précision.
De ce qu'ils peuvent apporter, c'est par exemple le choix de l'école.
Le choix de l'école, le suivi des notes, aller voir le thérapeute, signer les autorisations de sortie du territoire, suivre sur un plan médical, enfin je veux dire, donner leur avis sur les contacts avec la famille, les amis, etc. Donc en fait, tous les attributs habituels. Et le principe, c'est en cas de placement, qu'il soit séquentiel ou non, c'est au fond d'associer au maximum les parents, je dirais, comme s'ils avaient l'intégralité de l'exercice de l'autorité parentale. Parce qu'en fait, si vous voulez, en droit français, le juge d'enfant ne touche pas au fond de l'autorité parentale. Il peut toucher à certaines modalités de l'exercice, mais il n'a pas le pouvoir ni de la déclaration d'abandon, ni de la délégation de l'autorité parentale.
Viviane Zarpe-Cousin, vous avez beaucoup travaillé au départ avec des adolescents et puis vous avez décidé à Claire Logis de vous occuper d'enfants plus jeunes, entre 4 et 12 ans. Pourquoi ?
Alors, ce qui s'est passé quand j'ai travaillé avec des adolescents, c'est que pour certains, le lieu qui se trouvait le plus disponible et celui qui pouvait les accueillir, c'était leur famille. Donc les familles se retrouvaient à devoir réaccueillir leur enfant adolescent avec une rupture importante dans l'enfance, et ils ne se connaissaient plus. Et ça donnait des situations quand même graves, hein, moi je trouvais. Donc je me suis dit, voilà, il y a quelque chose d'important à faire dans le maintien du lien entre les enfants et les parents pour ne pas arriver à cette situation de retrouvailles impossibles et d'échecs. C'est pour ça que j'ai fait le choix de travailler avec des plus petits pour effectivement bien évaluer ce lien entre les enfants et les parents pour faire le moins de dégâts possible. Et puis je peux raconter une autre histoire autour de cette question, c'est-à-dire que c'était le 24 au soir, on avait un groupe d'adolescents particulièrement difficile et on avait prévu d'aller, je peux citer le spectacle, spectacle de Zingaro. On avait pris 10 places, on était 2 éducateurs pour les accompagner. C'était la sortie du 24 décembre. On s'est retrouvés avec un gamin et tous les autres gamins en fugue. Et ils étaient repartis dans leur famille. Et donc voilà, donc je me suis dit, là, il y a quelque chose quand même à travailler plus précisément.
Alors justement, quel dispositif à travers l'accueil séquentiel mettez-vous en place autour de cet enfant ?
À chaque fois qu'une famille arrive avec son enfant, il y a une difficulté repérée. Mais on peut faire le choix d'en parler, mais pas de la stigmatiser et de voir avec eux là où ils vont bien. Parce que c'est quand même, c'est pas les gens quand ils viennent nous voir, ils sont pas ou tout bons ou tout mauvais. Ils ont des choses qui sont mobilisables. Quand ces choses mobilisables sont mobilisables plus à partir de chez eux et dans un hébergement comme ça, c'est pas la carte, enfin, je sais pas comment vous dire, c'est un hébergement qui va s'ajuster au plus près de ce que cet enfant et cette famille sont en capacité de faire.
Donc vous, voilà, vous entendez avec ses parents ?
Voilà, quand il y a un contexte judiciaire en accord avec le juge, enfin, c'est pas, on n'est pas en électron libre, hein, dans ce qu'on fait avec ses familles. On est en concertation avec le juge des enfants, avec l'aide sociale à l'enfance. Voilà, c'est jamais fait n'importe comment, c'est toujours réfléchi. Mais je pense que notre particularité, c'est que nous, on va au bout de cet outil.
C'est donc l'article 375.2 qui, suite à la loi de mars 2007, la grande loi sur la protection de l'enfance, a permis juridiquement de recourir à cette modalité de placement assez particulière. C'était une demande des professionnels depuis des années et certains tribunaux, dont celui de Nîmes, avaient expérimenté depuis 20 ans ces différentes possibilités. L'expérience à Paris est quand même relativement récente et je veux dire que les modalités de travail entre les juges et les équipes qui sont spécialisées sont elles aussi extrêmement récentes. Mais ce qui est intéressant avec le placement séquentiel, c'est qu'on fait du sur-mesure pour chaque enfant, pour chaque famille et que ça demande effectivement un travail de précision.
Les enfants ont investi la maison d'enfants Claire Logis. Des difficultés persistent surtout pour Fatoumata, mais le travail éducatif qui est mis en place leur permet de grandir plus sereinement que l'an passé.
Aminata nous a montré cette année un aspect de sa personnalité que nous n'avions pas observé l'an passé. Elle sait aujourd'hui mieux se protéger face aux pressions que peuvent parfois lui imposer les grands. Ses difficultés d'endormissement sont estompées, l'absence de sa mère s'exprime moins. Le temps qu'elle aura partagé avec elle l'a beaucoup apaisée.
La relation à l'adulte a changé. Kadiatou a établi une relation de confiance avec celui-ci. Si l'an passé, elle s'interrogeait beaucoup sur la fiabilité de l'adulte, aujourd'hui, Kadiatou a acquis une sérénité qui lui permet d'être dans les échanges sincères et qualitatifs avec celui-ci. Elle a profité pleinement de sa mère et a beaucoup échangé sur son pays d'origine.
Vous avez choisi de lire cette synthèse parce que pour vous, qu'est-ce qu'elle représente, cette synthèse ?
Je pense que ça illustre toutes les années que j'étais là. C'est vraiment, tout est regroupé dedans, quoi.
J'étais encore au Mali, j'étais venue ici en visite pour le visiter, quoi. Donc j'avais un visa d'un mois, je ne pouvais pas rester longtemps. On a essayé de prolonger, il n'y avait pas de possibilité. Donc j'étais obligée d'aller, quoi.
Et vous étiez obligée de faire des allers-retours ?
Tous les années. Et par moi aussi, je viens, on faisait comme ça.
Nous, on est partis pendant longtemps, on est partis au moins 4 ans de suite, quoi.
Et ça, vous avez vraiment réalisé que ça se faisait par les éducateurs aussi ?
Oui, oui, oui. Ils nous aidaient beaucoup, oui.
Nous sommes là pour les aider. Il y a des enfants de 4 à 12 ans et dans chaque groupe, tous les éducateurs sont en capacité d'adapter leur travail et leur prise en charge à la situation familiale. Nous, ce qu'on essaye de faire, c'est que les parents ne se perçoivent pas comme mauvais, même s'ils ont fait des choses qui ont nécessité le placement, qu'ils ne se perçoivent pas. On n'est pas les actes qu'on a posés. Quand il s'est passé quelque chose, on va travailler sur ce qui s'est passé, on va essayer de comprendre comment ça s'est passé, on va aider la personne à comprendre ce qu'elle a fait, pour voir c'est aussi si elle est en capacité de changer, de faire autrement. On va proposer cet accueil-là quand l'état de confiance est entre l'établissement et la famille. C'est-à-dire qu'il faut que les gens puissent appeler à l'aide sans se sentir coupables, quoi.
Je suis arrivée à la maison d'enfants Claire Logis avec mes sœurs, Aminata et Fatoumata, le lundi 30 août 2001. J'étais âgée de 9 ans. Aujourd'hui, sur la photo donc, j'ai 13 ans et de nouveaux horizons s'ouvrent à moi. Bon, là, il y a une photo de moi qui cuisine.
Toujours prête à partager
mes recettes maliennes. Bon, après, là, il y a une photo, c'était une fête. Je pense que c'était une fête, oui. Là, on regardait la télé. Ça, c'est un Noël à Claire Logis. Ouais. Fête superbe. Là, c'était, en fait, on m'avait fait une farce ce jour-là. On m'avait offert un gros cadeau et tout. C'était le plus gros cadeau. Moi, j'étais toute contente. Et là-dedans, il y avait des pâtes, du papier toilette et des fruits. Mais après, j'ai eu un cadeau quand même. Là, c'est à la plage. On était en vacances.
C'est qui écrit, là ?
J'apprends à mes sœurs quelques pas de danse.
Vous avez envoyé des cartes postales à votre maman. Il y avait du courrier entre vous.
Oui, il y a toujours des liens quand je suis au pays, oui.
Vous êtes donc deux sœurs, Kadiatou et Aminata. Oui. Moi, j'aimerais bien que vous nous racontiez comment ça s'est passé quand vous avez au début retrouvé votre maman. Elle vivait au Mali. Et c'est venu de quelqu'un du foyer, le fait de revenir voir votre maman.
Oui. Comment j'ai retrouvé ma mère, en fait, c'était, bon, pas retrouvé physiquement. Au début, c'était une éducatrice qui avait voyagé donc au Mali. Et après, elle avait ramené des photos.
Et là, vous avez eu le désir de la revoir.
Oui.
Et vous, Maya, vous vous souvenez la première fois quand cette éducatrice est venue vous voir?
Oui, bien sûr. C'était Sandrine, elle est venue me voir. Elle m'a appelé au téléphone et donné une adresse et comment elle était habillée. On s'est trouvé, elle m'a montré les photos des enfants. Après, elle m'a expliqué que je pouvais venir les visiter après, tout. On a un peu discuté, quoi.
Pourquoi vous avez décidé de venir?
Parce que j'ai envie de voir mes enfants. Je vais vraiment vivre avec mes enfants, qu'on soit ensemble, quoi.
Mais ça a été très compliqué au début pour vous.
Au début, très, très compliqué. Donc, pour le visa, que j'avais pas de papier. Je vivais à l'hôtel, je ne pouvais pas avoir mes enfants. Moi-même, je préfère qu'ils restent dans un endroit stable en attendant que je trouve un toit, quoi.
Comment ça se passait concrètement au foyer pour voir vos enfants?
J'avais de visite à tout moment, mais sauf qu'ils ne peuvent pas aller dormir chez moi, que je ne peux pas dormir là, mais je pouvais venir les visiter après l'école et tout, quoi.
Et est-ce que vous compreniez quand votre maman était à l'hôtel et que vous ne pouviez pas aller habiter avec elle? Est-ce que c'était pas un petit peu difficile à comprendre, ça?
Ben, si, c'était quand même difficile à comprendre, mais que... moi, j'étais assez grande, j'avais peut-être 13 ou 14 ans, donc je comprenais quand même. Claire Logis, quand même, ça m'a aidée. Hein. Ça... c'était comme... je sentais pas que c'était un refuge, parce que j'étais quand même quelque part, mais... je me sentais bien ici, je me sentais chez moi, voilà. Et j'étais vraiment bien encadrée, voilà.
Bonjour Amoury, ça va?
Oui. Donc c'est quoi ce coup de magie de comportement là?
Bah en fait, à la réunion vendredi,
oui.
Quand j'avais fait des conneries au début de l'année, mon père...
Quoi?
Quand j'avais fait des bêtises, ah. Mon père m'avait prouvé pendant 2 semaines de décembre, ouais. J'ai dit d'accord. Alors après, j'ai réfléchi, j'ai changé de... Je vais changer de comportement, je te promets. Après, j'ai... Après, voilà.
T'as fait une promesse à ton papa?
Oui.
Ça a dû t'embêter alors, peut-être, d'être sorti
aussi. Et j'ai eu 12 sur 20.
En quoi?
L'évaluation de la semaine.
C'était quoi comme... Ah, de toutes les matières?
Oui.
12 sur 20?
Oui.
T'es content?
Oui, trop.
Ah bah c'est bien. Qu'est-ce que tu aimes le plus? De quoi tu es fan?
Le foot?
Ouais. Et ce soir, en fait, on a eu des places pour aller voir le match de foot. Et en fait, ben, Amine et toi et d'autres enfants de Paris, vous allez pouvoir y aller ce soir.
Voilà. C'est ma première fois de ma vie!
C'est vrai que tu veux un match?
Ah oui!
Donc avant, on a appelé quand même ton papa.
Oui.
Parce que tes parents t'avaient puni, t'avaient sanctionné par rapport à certaines bêtises de l'école. Et on a demandé à tes parents ce qu'ils en pensaient de tout ça. On leur a parlé de cette sortie. Et en fait, ton papa était d'accord pour que tu puisses aller ce soir au match de foot. Parce que voilà, tu as eu ta sanction vendredi dernier. Et qu'apparemment, ça se passe bien à l'école. Donc il
oui, vraiment, là, voilà. Ça se passe bien.
Donc il a donné son accord. Voilà, tes parents ont donné leur accord pour que tu puisses aller au match.
Au voilà. Stade de France. C'est au Stade de France.
C'est au Stade de France.
Oui.
Tu sais déjà quel match il s'agit?
Oui, France-Tunisie.
Oui, c'est ça. Bah, dis donc, t'es vachement calé, toi. Hein.
Bah, moi, je m'attendais pas à ça, moi.
Ah oui, dis donc, ça se voit, t'as les yeux qui pétillent.
Le maître mot de la prise en charge d'un enfant, c'est l'amour qu'on lui porte. Voilà. Et que aimer, ça fait partie d'un lien éducatif, je dirais même pédagogique et thérapeutique.
C'est assez inhabituel ce type d'emploi du mot amour dans la profession d'éducateur.
Oui, mais si on imagine la quantité de travail que ça représente, de travail sur soi-même, d'être attentif aux besoins d'un enfant, d'être attentif à ses mouvements d'humeur, d'essayer de les comprendre, d'être avec lui dans des accompagnements difficiles qui sont parfois auprès de la maîtresse d'école, parce que ça se passe pas bien, etc. C'est-à-dire d'être en permanence quelque chose qui serait comme un été pour l'enfant, en fait. C'est ça que font les éducateurs. C'est un travail d'étayage. Ils sont là comme soutien de quelque chose qui est en construction, qui est un enfant. Mais vous pensez de la quantité d'amour qu'il faut avoir pour faire ça?
Vous appelez pas ça de l'attention, du soin, de l'éducation?
L'attention plus du soin plus d'éducation, ça s'appelle de l'amour. Voilà, ça s'appelle comme ça. On n'oublie jamais qu'on n'est pas les parents de cet enfant-là. Même si on a envie qu'il grandisse dans les meilleures conditions, même si on a envie de l'aider à découvrir les aspects les plus positifs de lui-même, hein, c'est pas du tout un amour parental.
Lorsque tu regardes en arrière aujourd'hui, quel progrès vois-tu depuis le moment où tu es entrée à Claire Logis jusqu'à aujourd'hui? Qu'est-ce qui a changé en bien dans ta vie?
En fait, j'étais très préoccupée par ma mère et on m'a beaucoup appris à me préoccuper de moi avant tout parce que je ne m'occupais pas assez de moi, j'étais très intéressée par ma mère, j'avais peur et donc je pense que je suis moins inquiète pour ma mère que maintenant.
Est-ce que tu penses que pour ta maman, ça a été dur quand tu es partie à Claire Logis?
Moi, je pense que oui, parce qu'elle m'a dit « tu me manques, c'est bizarre quand tu pars, tu me manques » et tout ça. Elle m'a beaucoup dit ça, donc je pense que oui.
Aujourd'hui, tu peux la voir de temps en temps, tout de même?
Oui, je la vois. En fait, je la vois souvent aussi, en fait.
Pour toi, une famille, ça sert à quoi?
Je sais pas trop. Hein. C'est des personnes qui sont là... Pour nous, en fait, ça crée un lien. On peut pas. On a quand même beaucoup besoin d'une famille parce que c'est les gens à qui on peut confier plein de choses. Et puis voilà.
Ils sont là tous les jours.
Oui, tous les jours. Le foyer, ça ressemble à une famille. D'autant plus qu'il y a beaucoup d'enfants, on s'ennuie jamais là-bas.
Et quand tu étais en foyer, que tu revenais de temps en temps chez toi, etc., est-ce que tu en parlais dans ta classe? Tu le disais aux autres enfants, ils le savaient?
En fait, il n'y avait pas beaucoup de gens qui le savaient. C'était surtout mes meilleurs amis et les gens à qui je faisais confiance. Il y avait ma maîtresse aussi qui le savait, ça. Il y avait des rendez-vous des fois, et puis voilà. Donc...
Toi, tu préférais qu'ils ne soient pas au courant?
Oui, je préférais parce que je me disais peut-être qu'ils vont se moquer de moi, mais il y avait pas mal de gens qui le savaient, mais il y en avait aussi qui ne savaient pas.
Et pourquoi ils se seraient moqués de toi?
Je sais pas, mais j'avais pas très envie de leur dire parce que je trouvais que je leur faisais pas assez confiance pour pouvoir leur dire ça. Et je suis fière de moi parce que je me suis dit que j'ai réussi à tenir le coup jusqu'aujourd'hui.
Tenir le coup dans des moments parfois difficiles.
Oui. J'avais très envie de rentrer et je me disais, Sana, reprends-toi, tu sais qu'un jour tu vas bien partir et c'est bientôt la fin. Et puis c'est comme ça que j'ai réussi. Hein. C'était surtout vers le début. Vers la fin, j'étais plus habituée, je me sentais mieux.
Pour qu'on comprenne, C'était des moments le soir, par exemple, qui étaient difficiles quand tu avais envie de voir ta sœur ou ta maman?
Oui, il y avait des moments soir où je rentrais le week-end, bah, j'étais triste. Et même dans la semaine, il m'arrivait de penser tout d'un coup à ma mère et ça me faisait bizarre. J'étais triste.
Les signes qui ont amené le placement sont les mêmes pour dire que ça va mieux ou ça va pas mieux. C'est-à-dire quand un enfant arrive à avoir des relations plus sereines avec son entourage, quand il est à l'école et qu'il arrive à apprendre, quand il s'autorise à penser par lui-même, quand les parents viennent nous voir et qu'ils nous disent les relations à la maison sont moins tendues, notre enfant, on pense qu'il nous écoute mieux. L'enfant de son côté dit « moi je trouve que ma maman elle crie moins, que mon papa et ma maman ils se disputent beaucoup moins, en tout cas c'est plus supportable pour moi ». Il y a plein de choses comme ça. Hein. C'est-à-dire que les enfants en plus ils nous disent des choses, ils connaissent les enjeux. C'est quand même un enfant qui m'a dit « je vois bien que la manière dont vous aidez mes parents, ça m'aide moi ». Donc j'avais trouvé ça fantastique parce que c'est quand même bien l'esprit que nous, on essaye de transmettre. Et quand on y arrive, c'est bien pour les enfants. Parce que plus les parents s'approprient leur rôle, plus les parents comprennent ce qui est bon pour leur enfant, et mieux l'enfant va, et mieux il est protégé. Et mieux nous, on arrive à avoir une relation de confiance avec le parent qui ose nous dire.
Maury, est-ce que tu peux juste me dire ce que c'est là, le programme de ce soir? Donc là, on arrive au foyer?
Oui, après, je viens manger. Après, on part au Stade de France.
Et après, retour au foyer?
Oui. Et après, je dors.
Et rendez-vous demain?
Oui.
Tu vas demander une petite lumière pour t'endormir. Oui. Lorsque tu regardes en arrière aujourd'hui, par rapport à avant le moment où tu venais à Clairelogie, quel progrès est-ce que tu vois dans ta vie quotidienne, dans ta vie de tous les jours?
Je sais pas.
Tu sais pas? Ça va mieux à l'école, déjà. Et dans ta famille, c'est pareil?
Oui.
Ça sert à quoi, un foyer?
Ça sert à sortir des soucis qu'on a. Voilà.
Toi, t'avais l'impression d'avoir des soucis?
Non.
C'était plutôt ton papa et ta maman qui avaient des soucis.
Non, c'est personne. Mais moi, je sais pas comment ça s'est arrivé comme ça.
Comment est-ce que tu imagines ta vie dans le futur? Est-ce que toi, tu penses que tu vas rester longtemps à Clairelogie encore?
Non, parce que peut-être en décembre, je m'en vais.
Et qui t'a dit ça?
Ma référente.
Et tu as rencontré le juge ou pas?
Oui.
Et alors, tu peux me raconter comment ça se passe quand on rencontre le juge?
Il prend la décision si je pars de Clairelogie, je reste encore un petit moment. Et quand je suis partie le voir le 20 mars, il m'avait dit tu restes 4 décembre et après tu t'en vas.
Tu te souviens même de la date?
Oui.
Mais comment tu fais pour te souvenir de cette date?
Je sais pas.
Et tu y allais tout seul voir le juge? Comment tu as fait?
Non, avec mes parents. Et cette fois, c'était... J'avais ma référente, elle m'a accompagnée jusqu'au juge. Voilà.
Donc vous êtes entrée dans son bureau, c'était au tribunal, c'est ça? Enfin,
tribunal, oui.
Ça t'a un peu impressionnée?
Non.
T'étais pas trop intimidée?
Non.
Et toi aujourd'hui, quels sont tes rêves, ton rêve le plus cher?
Que je parte de Clairelogie.
Est-ce que vous, en tant que juge pour enfants, vous rencontrez systématiquement enfants et parents en audience? C'est comme tout de même des enfants petits, ils ont souvent entre 4 et 12 ans à Clairelogie.
On peut même recevoir plus petits, hein. C'est-à-dire qu'on a une grande tradition d'audition de l'enfant. Ça a toujours été, une espèce de culture du juge des enfants, c'est de pouvoir connaître l'enfant dont on s'occupe, de le voir avec ses parents, et c'est vrai qu'on a un stock de renseignements à travers d'une audience tout à fait intéressant. On voit tout à fait comment l'enfant se comporte et comment les parents se comportent avec l'enfant, sachant que une audience, ça n'est pas la vérité, loin de là, hein, mais c'est un moment tout à fait fort, privilégié, où il se passe pas mal de choses. Donc on a cette culture de se voir en général l'enfant en même temps que les parents, quelquefois séparément, à la demande de l'enfant, à la demande des équipes, à la demande des parents qui disent « écoutez, je pense qu'il faudrait que vous l'entendiez seul ». Après, la difficulté, c'est comment on intègre cette parole de l'enfant dans un contradictoire, puisque nous sommes tenus par les règles du contradictoire. C'est passionnant, mais c'est très compliqué. D'où la nécessité, effectivement, d'être extrêmement prudent dans le recueil de cette parole, de ne pas coincer l'enfant dans des conflits de loyauté, d'être très nuancé dans la discussion, de pouvoir se mettre, si on peut, à la portée éventuellement de tout petits enfants, de ne pas rentrer dans les provocations quand ils sont adolescents. Enfin, je veux dire, c'est tout un art. Et la question étant de remettre cette parole dans un contexte par rapport à une décision à prendre qu'on espère la moins mauvaise et la plus utile pour cet enfant.
On aura évalué ensemble. On va accompagner l'enfant à comprendre qu'est-ce qui s'est passé pour qu'aujourd'hui, un retour au quotidien dans sa famille n'est pas possible.
Et ça, c'est très douloureux.
Ah bah c'est douloureux. C'est douloureux comme pour un enfant de 6 ans qui doit accepter l'idée que sa maman l'abandonne. C'est les choses les plus douloureuses dans l'accompagnement. C'est très douloureux parce que les enfants sont jamais prêts à accepter cette notion. Nous ici, on vit des moments très difficiles avec des enfants quand leurs parents ne peuvent pas. C'est pas parce qu'ils sont mauvais, ils n'ont pas les ressources nécessaires pour assumer pleinement leur fonction parentale. Et donc ça, c'est douloureux pour les enfants, de toute façon. Et d'où l'importance de la qualité de l'accompagnement pour eux dans ces moments-là. C'est beaucoup de réunions, c'est beaucoup de réflexions, c'est nous-mêmes beaucoup s'interroger sur est-ce qu'on a tout bien fait, est-ce que voilà, on réfléchit beaucoup hein, dans ce type. Enfin, ça se fait pas comme ça. Hein. D'où avant de décider d'un éloignement d'un enfant avec sa famille. La qualité, il faut vraiment bien évaluer. Enfin, moi, ça, j'y tiens beaucoup. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prendre de décision de cet ordre sans vraiment avoir tout fait pour être sûr que c'est vraiment le bon diagnostic.
Stéphane, il y a un moment où tu t'es senti bloqué du fait de ne pas pouvoir revenir chez toi régulièrement. Ça t'a un peu bloqué?
Bah oui, parce que voir être entouré d'inconnus, c'est pas facile du jour au lendemain, quoi. J'aimerais bien retourner chez moi parce que j'ai plus de liberté et tout ça. Mais enfin, il y a quelques matières, j'ai quelques problèmes. J'arrive à 10 de moyenne, donc c'est un peu dur. Donc après, là, j'ai les éducateurs pour m'aider et tout ça. Donc si j'ai besoin d'aide, je les appelle. Chez moi, je fais pas grand-chose vu que ma mère est un peu malade. Je vais sur l'ordinateur, je joue un peu tout ça. Je vais voir des amis. Je reviens ici, quoi, dans le quartier.
Et ça t'apporte quoi d'être aidé justement et de vivre entre ces deux lieux?
Ah, c'est vrai que c'est un peu embêtant parce qu'il faut faire des allers-retours.
Et alors là, bientôt, tu vas devoir partir d'ici parce qu'ils y prennent.
La fin de l'année.
Alors comment tu vois ça, toi?
Eh ben, normalement, je vais dans un autre foyer qui est juste à côté du Sacré-Cœur. J'ai demandé ça pour continuer à aller au collège parce que j'ai des amis et tout ça.
Et ici, tu as un éducateur, donc référent Jérôme. Tu le considères comment, Jérôme?
Pour moi, c'est plutôt une personne qui m'embête, mais bon. Surtout en ce moment, en plus. Non, c'est parce qu'il vient chez moi, bon, il voit mon ordinateur, il veut direct mettre un contrôle parental.
Mais même si des parents contrôlent aussi les enfants, finalement. Il essaie un petit peu de se mettre à la place... D'un père, non,
Non, pas vraiment d'un père, mais de quelqu'un qui fait très attention à moi.
Qui te protège, en fait.
Oui, voilà.
Et en toi, profondément, tu comprends pourquoi on t'a proposé cette solution?
Bah oui, pour m'aider. Bah oui, ça va améliorer les choses. Par exemple, j'ai des éducateurs qui m'entourent. Donc ça va m'aider à augmenter mes résultats scolaires, donc d'avoir forcément un meilleur métier, d'avoir un bon avenir.
Et tu te projettes dans quoi ?
J'aimerais bien faire animateur radio.
Et quand tu es avec ta mère, qu'est-ce que tu aimes dans le fait d'être avec elle ?
Bah, ce qui est bien, c'est que ma mère me fait confiance, donc je lui dis que je sors, avec des amis, elle sait très bien que je vais sur Paris et tout ça, elle me dit juste « tarde pas ». Donc même des fois, si elle n'est pas là, je peux sortir tout seul. Elle sait où je suis parti, elle sait que je ne vais pas revenir trop tard. Mais c'est qu'ici, il faut que je revienne pour les prévenir. Et je n'ai pas toute satisfaction qu'ils me disent oui, quoi. Il y a aussi ça, c'est par exemple, je ne peux pas me coucher super tard comme chez moi. Et aussi, par exemple, quand je commence vendredi, je vais commencer à 10h30, je vais me lever à 7h. Quoi. Parce que les petits vont faire du bruit.
L'idéal pour toi, ce serait vraiment de terminer cette vie au foyer et de retourner...
Non, je préfère... Non, je préfère pas terminer ma vie jusqu'au foyer, mais en 2010, j'espère au moins partir. Là, je reste un an et je vais peut-être changer de foyer.
Donc on t'a dit que c'était la meilleure solution ?
Bah oui, parce que si je retourne chez moi maintenant, je pense pas que ce serait super.
On construit avec l'enfant, étape par étape. Et étape par étape, ça veut dire événement par événement, contexte par contexte, le contexte scolaire, le contexte familial, le contexte au sein du foyer, avec la vie avec les autres enfants. Toutes les strates de la vie de l'enfant nous concernent, parce qu'on se rend compte du travail effectué et du parcours avec l'enfant et sa famille. Quand j'ai connu Stéphane, il était toute la semaine à Claire-Logis, et uniquement déjà il repartait le week-end chez sa mère. Des week-ends qui se passaient relativement bien. Et est arrivé le moment où on a constaté que chacun d'entre eux était prêt à retrouver un temps de vie commune, de vie partagée au domicile plus intense. Donc à ce moment-là, on s'est concerté avec l'ASE, et d'un commun accord avec la... Toujours pareil, hein, l'enfant doit être d'accord, la famille aussi, l'aide sociale à l'enfance et nous-mêmes. D'un commun accord, on a établi... l'accueil séquentiel. L'intérêt de l'accueil séquentiel aujourd'hui, c'est-à-dire 9 mois après, disons, c'est non pas de constater que ça y est, oui, effectivement, c'est possible qu'ils vivent ensemble, non, c'est de constater qu'aujourd'hui, chacun d'entre eux exprime le fait que non, il faut continuer sur cet accueil séquentiel. Ça nous montre bien l'intérêt de cet accueil séquentiel. C'est pas seulement pour qu'il y ait un retour définitif à domicile, c'est pour aussi vérifier cette possibilité.
Bonjour.
Vous allez bien ? Ça va ?
Bon, t'étais content là.
C'est qu'on n'est jamais allé au Stade de France.
Comment ça, première fois que j'ai
T'as vu quel âge t'as vu quel âge
C'est un côté magique, hein, la lumière,
non, attends,
ouais,
moi,
le
je
bruit.
Je suis jamais allée, je rêve d'aller au Stade de France.
On a de la chance, hein ?
Ouais, je trouve que vraiment c'est super. Hein.
Bon.
On y va là ou...
Ouais.
On y va. On y va.
Au revoir.
Au revoir. Au revoir, à la semaine prochaine.
Au revoir.
On va chez vous ?
Oui. Mais c'est vrai, Maury. Ils ont sifflé la Marseillaise à Maury.
Il y a Tunisien, c'est tout.
C'est pas bon, ça. Ils ont fait comme nous à Maury. Ils ont fait comme l'Algérie, c'est pas bon. Ah bah c'est normal. C'est normal à Maury.
Au début de l'étude, il a écrit
Le bleu.
Justice sanctionne les
importateurs. C'était une bonne surprise alors, c'est-à-dire à quelle occasion
en fait ? En Algérie, on écoute Faisal.
Hein, c'était à quelle occasion, Maury ?
Parce que j'ai bien travaillé. J'ai eu 2 à 12.
2 à 12, ouais, j'ai vu ça dans ton cartable.
T'as vu ? Et j'ai eu un 15,5.
En quoi ?
En géométrie.
Ah, super ça !
On a fait la connaissance de Christelle. Ça a l'air de très bien se passer. Hein.
Ah oui, oui, ils s'entendent bien, franchement.
Elle est très gentille. Hein.
Très, très gentille. Ah oui.
Donc elle vous raconte un petit peu.
Elle vient voir l'institutrice pour savoir comment ça s'est passé la semaine. Autrement, depuis qu'il a Claire-Logis, il aime bien. Au départ, c'était l'angoisse. on s'était dit oui, c'est mal tombé par rapport au petit quand il est né, quoi.
Ah oui, parce que c'était il y a un an. Et Adam,
il a un an et demi. Il avait, on va dire, 6 mois quand il est parti à chirurgie.
Ce qui est bien, c'est que c'est un soir par semaine.
Voilà, oui, c'est ce qu'on a demandé. Ouais.
Vous avez pu le demander,
oui.
Ça?
Oui, on a demandé parce que, je veux dire, moi, je voulais pas que ça peinait. C'est lui, surtout à l'école, ses copains. Il y aurait eu un grand changement. Nous en aurions voulu, quoi.
Vous aurez manqué aussi.
Ah oui, beaucoup même.
C'est pas évident à gérer ça quand on a 9 ans et demi.
Bah, le premier mois, c'était triste. Hein. C'était triste. Hein. Ne pas l'avoir le mardi soir à la maison, ça mettait de l'ambiance. Hein.
Amaury se souvenait même du jour où il a rencontré le juge. Il m'a dit que c'était le 20 mars.
Ça, je sais.
C'était le 20 mars.
Peut-être.
Et là, vous espérez qu'il revienne totalement chez vous à la fin de l'année?
Oui, quand même, j'espère.
Mercredi 19h, arrivée chez Amaury et ses parents.
Entrez.
Le fameux appartement.
La coupe du monde 2010, au bleu. Faut pas oublier les médailles. Hein. Médaille du cross, médaille de foot.
C'était médaille à toi?
Oui, mes médailles personnelles, je les ai gagnées.
Donc là, c'est ta chambre.
Là, les photos.
Ah, de toi et de ton frère.
Oui. Mais mes jeux sont dans la malle.
Qu'est-ce qui a fait qu'on vous a proposé un placement?
Bah, ça s'est fait, on va dire, bêtement, quand ils ont demandé une enquête sociale pour nous. Parce quand il était petit, il avait 3 ans et demi, 4 ans. Je l'ai laissé jouer dans la cour, c'était une cour protégée. Puis après, bon, lui, il était jeune, quoi, il savait pas ce qu'il faisait. Donc il a suivi une adulte qui est sortie de l'immeuble. Donc il m'a échappé de peu. Quoi. Puis après, bah, c'est comme ça que... On est vite tombé dans l'engrenage. Quoi. C'était surtout bah, par rapport aux difficultés que Amaury rencontrait à l'école. Puis après, bon, par rapport aussi à ce qu'il avait vu. Quoi,
difficultés relationnelles ou...
Voilà, oui. C'est quand on a été face à la juge qu'elle nous avait dit que ce serait un placement séquentiel. Et après, bon, elle nous a expliqué ce que c'était que le placement séquentiel.
Pour une journée, j'ai accepté, mais pour toute la semaine, non.
Sur la vie, vraiment votre vie en accueil séquentiel, vous commencez à vous dire qu'Amaury va partir le lundi soir. Comment ça se passe? Vous commencez à y penser? Vous vous préparez à son départ?
Dès le dimanche soir, on dit « Ah, bah, mardi, tu vas y aller, donc faut pas qu'on oublie, on doit préparer ton sac. Le week-end passe vite, on est lundi, hop, mardi, tout de suite, il va... »
Au fait, il faut que ça passe ce soir-là et cette journée-là.
Voilà.
Ouais, il y a trop de vide.
Mais on discute, on se dit « Oui, pourquoi on en est arrivé là ?» Donc, quelle bêtise on a fait, quoi. Quelle erreur on a fait avec Amaury, quoi. C'est vrai, quelle erreur on a fait avec Amaury. Pourquoi il a fallu prendre cette décision?
Foyer Claire Logis, avec Sana, 11 ans, et sa grande sœur, Kéra, 26 ans.
J'ai vécu 3 ans ici. Et bon, bah après, je suis repartie.
Mais ça s'est fait petit à petit? Tu as dit, moi, j'aimerais bien vivre chez ma grande sœur?
C'est comme si c'était une mère, en fait. Même d'ailleurs, je suis contente parce que je grandis bien et je suis en présence de ma famille.
Donc en fait, à 13 ans, cette maison-là ne peut plus les accueillir. Donc ils vont soit dans des familles d'accueil ou dans un autre type de foyer, mais plus ici. Donc moi, ce qui m'intéressait, c'est de pouvoir la prendre. On en a tous parlé et puis on a trouvé que c'était la meilleure solution. Et donc en fait, comme Sana elle est rentrée en 6e, on s'est dit que c'était le meilleur moment parce qu'en fait, comme ça, elle ne rentrerait pas en plein cursus scolaire.
Dès qu'elle est arrivée ici, elle nous a toujours dit, mais ma sœur, elle parle que quand je serai plus grande, quand elle aura un appartement plus grand, elle veut m'accueillir. Donc nous, ce qu'on a dit à Sana, c'est qu'elle nous dit ça, qu'on va prendre le temps de rencontrer sa sœur et qu'on va parler avec sa sœur de tout ça. Et c'est ce qui s'est fait très progressivement.
On a bien vu avec Kaira qu'il fallait du temps pour que ces choses-là se passent tranquillement. On l'a travaillé avec la maman, parce qu'il y avait ça aussi. Parce que pour Sana, il y avait une importance que sa maman l'autorise à vivre ailleurs qu'avec elle aussi. C'est ce que sa maman, je pense par amour pour elle, hein, parce qu'elle savait qu'elle ne pouvait pas lui apporter ce qu'elle avait besoin, a accepté. Et puis je pense que Kaira a parlé beaucoup avec sa maman de tout ça.
C'est juste ça, Kaira ?
Oui, on a beaucoup discuté parce que bah, c'est vrai que c'est pas évident pour une maman de laisser son rôle de maman à sa fille. Et donc on en a beaucoup parlé.
Quand la demande a pu se faire, et bah, j'ai vu le juge et on en a parlé. Et donc après, il a permis que je puisse aller chez ma sœur.
Tu en as parlé ? Mais comment ça s'est passé quand tu en as parlé avec lui ?
Bah, je suis allée dans son bureau et je lui ai dit ce que je voulais. Donc lui, il a fait des démarches et puis voilà.
Tu vas grandir, tu as 11 ans. Qu'est-ce que tu aimerais faire ?
Moi, bah, en fait, je voudrais continuer mes études pour aller très loin. Et en fait, moi, c'est ça mon projet. Hein.
Et qu'est-ce que c'est aller très loin pour toi ?
Bah, moi, j'aimerais bien faire chirurgien. Et donc, bah, moi, je fais tout pour. Hein.
Et chirurgien, pourquoi ça te plaît comme métier ?
Parce que j'aime bien venir en aide aux gens. Et moi, ça me plaît de pouvoir sauver des vies. Il faut que je continue et j'y arriverai. Hein. Et quand il y a des moments vraiment difficiles, il faut toujours pas s'arrêter, il faut y croire et il faut se dire qu'un jour, ce sera la fin et que ce jour, il est proche.
C'était capital pour toi de pouvoir rentrer chez toi de temps en temps et de ne pas être tout le temps au foyer.
Oui.
Pourquoi c'était capital, ça ?
Bah, parce que moi, personnellement, je ne peux pas vivre sans ma famille. Ça, c'est un besoin vital pour moi. Donc, si je vis sans ma famille, je me sentirais très mal.
Vous vous souvenez toutes les trois, est-ce que vous êtes à la fin, au moment où l'accueil s'est terminé, vous êtes allées voir le juge toutes les trois ?
On était très très contente, pressée, moi aussi j'étais pressée, je comptais le jour, quand est-ce qu'ils vont venir, j'étais très pressée quoi.
On était tous là, il y avait mon père aussi et mon autre sœur. On a parlé un peu avec le juge, on a parlé de l'accueil, comment ça s'est passé pendant toutes ces années. On savait qu'on allait partir après le rendez-vous, donc on s'était quand même préparé. Et après, elle nous a annoncé ça, ben on était contentes. Voilà.
Et aujourd'hui, vous avez la garde depuis cet été ?
Oui.
Vous êtes surveillée ou pas ?
Non, ça va, je ne suis pas surveillée, parce que déjà, ils connaissent un peu ma situation, donc ils connaissent mes qualités et mes défauts, quoi.
C'est terminé.
Oui, c'est terminé, oui.
Et perspective, vous avez ouvert la page perspective. Qu'est-ce qui est écrit à la page perspective ?
Pour remercier tous les agents de Claire Logis qui m'ont beaucoup soutenu, aidé, quoi. Que je ne les oublierai jamais.
Et ben moi aussi, je voulais remercier tout le monde. Et particulièrement Sandrine, parce qu'elle m'a beaucoup aidée, une éducatrice. Parce que des fois, quand même, j'aurais fait subir des choses.
Content d'avoir mes enfants, que ce soit une famille unie, que je puisse élever mes enfants, de les avoir à côté de moi. Je suis vraiment fière de ça. Quoi.
Merci à Sana.
Je grandis bien et je suis en présence de ma famille.
Stéphane.
Il voit mon ordinateur et il veut direct mettre un contrôle parental.
Yves Masson, directeur de Claire Logis.
On va proposer cet accueil-là quand l'état de confiance est entre l'établissement et la famille.
Kaira.
Bien sûr, elle avait des inquiétudes comme toutes les mamans.
Viviane Zarbe-Cousin, directrice éducative.
La manière dont vous aidez mes parents, ça m'aide.
Docteur Monique Frodo, pédopsychiatre au Moulin Vert.
L'attention plus du soin plus d'éducation, ça s'appelle l'amour. Là, ça s'appelle comme ça.
Christelle, éducatrice.
Pour Amoury, je suis un repère.
Le juge Hervé Hamon, président du tribunal pour enfants de Paris.
Mais ce qui est intéressant avec le placement séquentiel, c'est qu'on fait du sur-mesure.
Aminata.
Mais après, j'ai eu un cadeau quand même.
Kadiatou.
Le temps qu'elle aura partagé avec elle l'a beaucoup apaisé.
Maya.
J'étais encore au Mali, j'étais venue ici en visite... pour les visiter, quoi.
Jérôme, éducateur.
On construit avec l'enfant.
Amaury.
c'est ma première fois de ma vie.
C'est vrai que tu veux un match?
Ah oui.
Et ses parents. De toi pour moi, un documentaire de Catherine Escrive, mixé par Éric Boissé et réalisé par Jean-Philippe Navarre.
L'accueil séquentiel tel qu'il vient d'être décrit par Catherine Escrive et Jean-Philippe Navarre, ce documentaire peut être réécouté et commenté sur notre site, n'existe qu'à l'état expérimental en France dans les administrations qui ont à voir avec l'éducation. L'expérimentation est mise en avant, là où elle peut attirer les projecteurs, et puis ensuite, rarement, mise en œuvre ailleurs. Demain, troisième documentaire de notre série sur la délinquance juvénile, où on verra que, généralement, c'est l'impression d'enlisement qui l'emporte. Il est 17h, vous écoutez France Culture. Raphaël Antoven, Les Nouveaux Chemins de la Connaissance, bonsoir à vous.